puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arapèches, ou des Juifs, ou des Mandichoiras, ou comme la culture chinoise, par exemple.
Radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Allez Clément, on va y arriver. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Bonjour Clément.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors vous écoutez Transhistorien, je peux enfin vous annoncer le nom de l'émission sans être pollué par des génériques qui débarquent d'on ne sait où. Et si, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'avec Marie, nous avions envie de vous parler de seins, de boobs, de tétons, de boobies et pas n'importe lesquelles.
Oui, non, bande de coquins, ce n'est pas de moi qu'il sera question aujourd'hui, désolée. On va plutôt vous parler histoire et donc vous parler de la poitrine de Marianne, notre bonne vieille allégorie de la République française. Car il y a quelqu'un là-bas au gouvernement qui aurait bien besoin qu'on lui remette les pendules à l'heure, mais ce sera tout à l'heure. Marianne déjà, d'où vient-elle ?
Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a 5 enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira, ça ira, toute la vie.
Alors qu'est-ce que c'était que ça, Marie ? Parce qu'avec nos problèmes de son, on est bien embêtés.
C'était à peu près du Michel Delpech.
Avec à peu près.
Que Marianne était jolie, donc à l'instant sur Transistor. Alors, il disait que Marianne est née à Paris en 1790, pendant la Révolution. Est-ce que c'est bien exact, Clément ?
Bah, plutôt oui que... Plutôt oui que non, Marie.
Et plutôt non que oui.
Et voilà. Parce que dès la Révolution, on voit des figures similaires à celles de la Marianne d'aujourd'hui qui émergent. Et ce sont des allégories féminines, comme il en existait déjà sous l'Ancien Régime. Et ces allégories féminines mélangent héritage romain, symboles fixés dans des dictionnaires à l'usage des artistes du XVIIe. Les symboles sont très codifiés, et ce ne sont que des conventions qui permettent de distinguer les figures de la raison, de l'égalité, de la justice, de la nature, de la terreur parfois, ou celle qui est la plus courante pendant la décennie révolutionnaire, j'ai nommé la liberté.
Et en fait, l'allégorie classique de la liberté existe bien avant celle de la République, qu'on n'appelle pas encore Marianne. Alors les supports de représentation sont très nombreux, ça va des peintures et sculptures, aux gravures, mais aussi aux cartes à jouer, aux sceaux, aux chars de parade, aux tableaux vivants avec des actrices, aux images promenées en procession.
Mais il faut quand même garder à l'esprit, chers auditeurs, que d'autres symboles sexués existent à la même époque.
C'est ça. Par exemple, pour la période 1793-1794, les historiens ont noté que le nombre d'allégories féminines de la liberté est en recul, alors qu'au contraire, l'imagerie autour du grand Hercule gaulois, incarnant le peuple français désormais souverain, se multiplie. Une image du régime, non pas seins nus, mais le torse en avant et couvert d'une peau de lion.
Voilà, une image en fait extrêmement virile, quoi. Et l'allégorie du nouveau régime républicain, forcément, eh bien, n'apparaît qu'en septembre 1792, après le renversement de Louis XVI et la proclamation de la République. Il faut trouver rapidement une figure à ce nouveau régime qui est encore très abstrait dans l'esprit des Français. L'État était personnalisé par la figure du roi, et désormais, il l'est par cette figure féminine de la liberté, qui devient aussi figure de la République, quand les deux ne sont pas représentés ensemble. Sur le premier sceau de la République, on voit une femme debout, vêtue à l'antique, et pas du tout seins nus, mais on y reviendra, une pique avec un bonnet phrygien dans la main droite, un faisceau d'armes dans la main gauche.
Alors on dit beaucoup la liberté, la république depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on sait quand apparaît vraiment le nom de Marianne ?
Il est attesté dès 1793, Marie, et c'est un surnom péjoratif à l'origine, donné par les contre-révolutionnaires. Marianne, c'est un nom populaire, très fréquemment donné aux petites filles, et c'est donc une manière bien méprisante de qualifier un régime dont on estime qu'il donne beaucoup trop de pouvoir et de responsabilité au peuple.
Et en parlant de peuple, la représentation de Marianne à laquelle on pense peut-être le plus souvent, c'est celle du tableau de Delacroix. Eh bien, chers auditeurs, il est temps de démonter cet énorme cliché. Déjà, ce tableau s'appelle « La liberté guidant le peuple ». C'est donc bien la liberté avec son bonnet phrygien qui est représentée, et pas une Marianne républicaine. Et pour cause, l'événement du tableau, ce n'est pas du tout la prise de la Bastille ou une insurrection sous la Révolution française, comme on croit parfois, c'est le soulèvement des Trois Glorieuses dont tu vas nous parler.
Oui, en juillet 1830, le peuple parisien se soulève contre le roi Charles X. Et Charles X, il fait très ancien régime, hein, c'est l'un des frères de Louis XVI. Charles X abdique, mais le parti républicain est court-circuité par les royalistes qui préfèrent mettre sur le trône un prince de sang d'une autre branche, Louis-Philippe, de la branche des Orléans. Du coup, pas de république en 1830 et surtout pas sur le tableau de Delacroix.
Bon, après, tout le monde n'aime pas ce tableau.
Eh bien moi, je ne suis pas un enthousiaste de ce tableau parce que je le trouve assez sournois. Hein.
Ah bon ?
Oui, je trouve que le peuple est représenté d'une drôle de manière. Vous avez un type au premier plan, il est nu, on voit ses poils pubiens. Je dis, qu'est-ce qu'il était en train de faire sur cette barricade pour se trouver dans cet état-là ? Et le seul qui est bien dans le tableau, c'est pas le gosse qui a deux revolvers, parce qu'à l'époque, Victor Hugo n'a pas écrit, Gavroche. Hein, c'est donc un enfant dénaturé avec une femme nue, un type à poil devant, et derrière, le bourgeois avec son beau chapeau qui lui est bien.
Alors, je vais vous faire qui était en train de s'étouffer
de mémoire,
en fait.
Je vais vous faire le sous-titrage de cette espèce de grognement. Là. Alors, oui, ce tableau, je le trouve assez sournois parce que c'est une bien drôle de manière de représenter le peuple avec ce bourgeois qui est bien joli, mais cet enfant avec ses deux pistolets, c'est un enfant dénaturé, c'est pas encore Gavroche, et puis alors cet homme au premier plan dont on voit les poils pubiens.
Et alors, petit jeu du coup, est-ce que quelqu'un a une idée de qui pourrait être à l'origine de ce discours ?
Qui est choqué par les poils pubiens ?
Qui est choqué par les poils pubiens au premier plan ? Non, personne.
Non, pas Sylvie Martin. C'était une bonne tentative.
Alors non, pas Sylvie Martin. Du coup, qui est-ce, Marie ?
Non, vous n'aurez pas reconnu la voix de Jean-Luc Mélenchon dans une interview donnée il y a quelques jours. Mais quelque part, il a raison, Jean-Luc. Qu'est-ce que c'est que ce peuple débraillé, guidé par une femme encore plus débraillée, une liberté topless et vindicative ? Chers auditeurs, nous avions promis de vous parler de boobs.
Et nous tenons toujours nos promesses sur ce domaine-là.
Alors, Marianne libérée du téton ou pas, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, les représentations de Marianne ou de la liberté seins nus ne sont pas majoritaires. Plus exactement, on voit qu'il y a deux traditions.
D'un côté, la version avec une figure féminine, jeune et dynamique, en toche courte, l'air belliqueux parfois, qui montre ses genoux et parfois ses seins.
Scandale !
Et qui, il faut bien dire, fait un petit peu sauvageonne.
Et puis, de l'autre côté, on a la figure de la femme plus mûre, avec une pose calme et même grave, entièrement drapée, souvent assise, genre la puissance instituée est bien établie, vous voyez ? C'est une version plus conservatrice de la République, par opposition à une version révolutionnaire qui coexiste dans l'art.
Et voilà, ces deux versions cohabitent dès la Révolution. En 1848, par exemple, juste après la proclamation de la Seconde République, le gouvernement provisoire lance un grand concours de peinture et de sculpture, dont Marie pourrait beaucoup vous parler, pour donner un visage à la République. C'est là que la figure féminine s'impose vraiment. La majorité des candidats ont proposé ça, plutôt qu'une figure d'homme ou d'animal ou un objet,
voilà. Voilà, mais ce concours a été globalement un échec, pas comme mon oral d'agrégation, n'est-ce pas Clément ?
Plutôt, et pas comme ton oral d'agrégation, puisqu'à la fin, aucun tableau n'a été retenu. Les républicains représentés comme des furies piétinant la monarchie ont effrayé, et les républiques calmes et assises manquaient de force, parce qu'elles étaient surchargées de symboles allégoriques démodés.
Oui, il faut imaginer des tableaux avec des résultats assez lourds. Vous imaginez une femme entourée par des tables d'airain, plus un sceptre, plus un flambeau, plus des faisceaux d'armes, plus un coq, plus un bonnet phrygien, plus un lion, plus une statue de la victoire, plus un niveau, plus un œil de la raison, etc. etc. Donc ça donne vraiment des tableaux très lourds et assez peu lisibles pour un public qui ne connaît pas par cœur son petit répertoire de symboles allégoriques.
Et
c'est malheureux.
Et c'est absolument scandaleux, il faut le dire. Alors les historiens de l'art estiment qu'un tableau quand même se démarque parmi les propositions faites pour ce concours. Il s'agit d'une esquisse du peintre et caricaturiste Daumier. On y voit une république forte et mature, assise, seins nus, allaitant deux enfants pendant qu'un troisième lit à ses pieds. On a donc un idéal simple de république nourricière, dispensatrice d'instruction. Mais l'esquisse n'a malheureusement jamais été terminée et Daumier n'a finalement même pas participé au concours.
Alors une république seins nus et nourricière, ça vous rappelle peut-être quelqu'un ?
Sur la place des femmes, mes chers amis, nous ne pouvons pas transiger. Une société démocratique, libre, égalitaire, se juge d'abord peut-être aujourd'hui sur la place des femmes. La place des femmes, la conquête de leur liberté, c'est le combat historique de la gauche. Et puisque vous parlez les uns et les autres, et vous le faites bien, vous parlez de Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre. C'est ça, la République.
Bon. Alors, je vous le fais de tête. Sur la place des femmes, nous ne pouvons pas transiger. Et Marianne, elle a le sein nu.
Elle a le sein nu. Elle symbolise la République.
Elle est libre. Elle n'est pas voilée.
Voilà. Alors, c'était une imitation très réussie à deux voix du Premier ministre Manuel Valls.
Voilà. Vous aurez reconnu cette grande envolée lyrique.
Merci, la régie. Et pour restituer le contexte, ces propos ont été tenus le 30 août dernier au meeting de rentrée du Parti socialiste, dans un contexte de crispation politique sur le thème de la religion et de la laïcité, alimenté par les attentats de juillet et la question du port du burkini, érigé en véritable affaire médiatique et politique.
Alors, on passera aujourd'hui, parce que c'est pas le propos, sur l'assertion selon laquelle Marianne a les seins nus parce qu'elle est libre. Disons qu'elle est bien la seule à avoir ce droit en France, puisque la loi interdit, je cite, « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui », sans préciser si les tétons masculins ou féminins sont concernés par cette accusation. N'empêche, quand c'est une fémène qui manifeste seins nus, ça dérange, et certaines ont été condamnées pour leurs actions topless. Fin de la parenthèse.
Oui, on vous propose plutôt de revenir sur la confusion historique dans les propos du Premier ministre. Dire qu'on ne transigera pas sur la place des femmes, puis partir sur la figure de Marianne libre, eh ben, c'est oublier que Marianne ne personnifie pas les femmes en République. Au siècle où elle émerge, comme l'a rappelé l'historienne Mathilde Larrère sur Twitter, les droits civils des femmes sont très fluctuants. Divorce autorisé par les révolutionnaires puis supprimé par Napoléon, ou encore octroi de droits civils, sans jamais aller jusqu'à accorder les droits civiques et politiques. Dont, notamment, le droit de vote et l'éligibilité. Un combat historique pour les droits des femmes que ne menait pas encore la gauche au 19e, n'en déplaise peut-être à Manuel Valls.
Et Marianne, donc, ce n'est pas les femmes, c'est encore moins la liberté des femmes. Marianne, c'est la République elle-même. Donc, n'allons pas trop vite sur l'interprétation des symboles. Le sein nu, c'est avant tout une convention esthétique dans les allégories, beaucoup plus qu'un quelconque symbole de liberté.
Et d'ailleurs, les bustes de Marianne dans nos mairies sont rarement seins nus. Et non, les tétons qui pointent, ça ne compte pas. Ça aussi, c'est juste de l'esthétique. Il suffit de regarder la statue de Marianne, place de la République, inaugurée en 1880, quand la République est enfin installée en France. Grande, triomphante, mais la poitrine bien couverte.
Exactement, Clément.
Alors, chers auditeurs, il est temps de refermer ce numéro de rentrée de Trois Historiens. Et Marie et moi espérons qu'il vous a plu, n'est-ce pas Marie?
Oui, surtout en dépit des problèmes techniques. Et donc surtout, chers auditeurs, continuez à vous méfier des clichés historiques sur Marianne et sur la liberté. Car comme le rappelle l'historien Maurice Agulon, les allégories féminines imaginées dès la Révolution confinent souvent les femmes dans un rôle d'objet ou de support abstrait d'une idée, au lieu de franchement représenter leur rôle actif dans le processus.